Peter Reimer, qui est doctorant en linguistique romane à l'université de Goethe de Francfort sur le Main, et donc qui va nous proposer une communication intitulée « Changement d'authentification des blocs aux cités d'or ».
Très bien, merci. Merci à vous d'être là et porter intérêt au sujet. Merci à tous ceux qui présentent ici et aussi aux organisateurs. C'est vraiment un plaisir de voir autant de monde se retrouver autour d'un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai répondu présent à l'appel et je suis heureux qu'on m'a accepté parce que quand même c'est pas mon sujet de doctorat, mais oui, j'ai déjà travaillé pas mal dessus et pris l'occasion pour approfondir et renouer les recherches, on va dire. Donc en regardant ce que je pourrais faire, je suis tombé sur un entretien, une interview avec Sia Stiles, de psychiatre de la rime. Monsieur Giacono nous a déjà parlé du rap marseillais hier, donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, ça fait quand même partie du patrimoine français, un peu de savoir ce qui est psychiatre de la rime, I am. Mais bon. Dans cette interview, il affirme « Sur les cancers, on s'est rendu compte que des gens ont attaché de l'importance à des mots ou à des phrases auxquelles toi, tu n'avais pas fait plus attention que ça. » Donc du coup, eux, Soprano, Vincenzo et Alonso, quand ils écrivent, ils ont vraiment conscience que les gens les écoutent. C'est la différence justement entre le premier et le deuxième album. Là, on sait que les gens écoutent. Donc, ce qu'il évoque là, c'est un changement d'attitude au fur et à mesure de la carrière. Si on prend une carrière artistique, comme aussi un champ de commercialisation, il y a des contraintes, c'est facile à dire, il y a un apaisement, il y a du sell-out, mais c'est clair qu'il y a un changement, les gens évoluent et l'art évolue. Mais en quoi ce changement en soi consiste vraiment? Donc les questions de recherche sont en quoi ce changement consiste effectivement dans les registres de l'identification et de la langue, parce qu'il s'agit quand même de se représenter, de s'affirmer, se positionner. Et après aussi, quelles stratégies d'authentification ils sont en jeu? Comment rester crédible et qu'est-ce que cela veut dire? Durant cette communication, on va un peu aborder les théories, les méthodes. Après, je vais essayer de vous présenter les résultats, mais il y en a tellement que je vais quand même me concentrer sur quelques faits et essayer de vous donner un aperçu, un regard dans mon laboratoire. Donc les changements socioculturels d'identification et les constructions discursives, les changements des patterns linguistiques, variations du langage, éléments d'autres langues, changements des stratégies d'authentification et bon, une conclusion et les perspectives à la fin. Le terme de commercialisation, dans les recherches du hip-hop ou de la romanistique allemande sur le hip-hop dans les pays romains, a été utilisé par Scholz en 2003 et il a fait une distinction entre underground, overground et mainstream pour pouvoir catégoriser les œuvres de rap des différents pays. Et bon, il y a une différence en audience dans l'underground, elle est spécialisée, dans l'overground aussi assez spécialisée encore, dans le mainstream universel. Le label, d'abord, c'est autoproduit, après spécialisé, et à la fin, c'est une major la plupart du temps. Et Donc, une carrière artistique se fait au cours de cet itinéraire, comme je l'appelle, de commercialisation. Il y a un processus qui implique des impératifs commerciaux et aussi des compromis au niveau de la langue et de l'art. Et bon, ceci a été fait ou mis en place pour pouvoir catégoriser. Et moi, je pense que c'est aussi bien d'utiliser cette différenciation pour analyser une carrière et en faire sortir les processus de changement entre l'underground, l'overground et le mainstream. Et j'ai pris Psychiatre de la Rime parce que c'était l'interview que j'ai trouvé, je trouvais ça pertinent, mais on pourrait aussi prendre d'autres groupes et analyser et après encore faire la comparaison pour en faire sortir réellement ce que ça implique, la commercialisation. Après, on est ici pour parler de l'authenticité. Moore, en 2002, Authentication. Donc l'authenticité, ce n'est pas quelque chose qu'on a, mais qui est attribué par quelqu'un d'autre. Donc il y a trois formes, soit on est cru dans la vérité de sa propre situation, la vérité de la situation d'autres, ou aussi la vérité de sa propre culture qu'on représente. Et donc pour les rappeurs, il s'agit surtout du but d'être authentifié ou être cru afin d'être écouté, parce qu'on va pas écouter quelqu'un qu'on va pas croire. De l'autre côté, tu as déjà parlé du discours et comment un discours est construit. Vodak en 98 a montré les stratégies de discours et qu'ils sont des plans d'action plus ou moins élaborés et conscients qui se passent au niveau de l'organisation, pas comme Bourdieu l'affirme au niveau de l'action. Là, il y a une discussion. Ils ont un but précis et le degré de l'intention monte entre le public, le privé et le public. Donc le rap se passe au public. L'intention devrait y être. Après, il y a plusieurs stratégies. Les plus importantes sont quand même celles de la préservation et justification. Alors, celles qui protègent, soutiennent et conservent l'identité du groupe. Celles de la destruction, sans une alternative proposée. La construction, identification, unification, solidarité, démarcation, mais aussi la transformation. Donc, on propose une alternative après avoir déconstruit ce qui se dit. Et cela se fait à l'aide de stratégies d'assimilation et de dissimulation. Voyons les méthodes. Il s'agit de chansons de Psychiatre de la Rime. Pour l'Underground, j'ai pris les chansons avant Block Party, leur premier album. Comme on a vu dans l'interview, c'est après le premier album qu'ils se sont aperçus qu'on les écoute, alors ils ont changé. Mais à la source, c'est les chansons avant le premier album. Après, pour l'Overground, j'ai pris Enfant de la Lune, le deuxième album, et Mainstream, Cité d'Or. À chaque fois, 10 chansons pour avoir une comparaison. Et cette grille-là, vous allez la voir maintenant. Toujours à gauche, Underground, au milieu, Overground, à droite, il y a le mainstream. Et les sources, bon, ça c'est une question qui est toujours importante, je crois. D'où est-ce que provient cela? Maintenant, avec l'Internet, on a plein de sites qui nous fournissent des paroles mal transcrites, on va dire. Vous le savez. Donc, on peut commencer par cela, mais il faut toujours retravailler et de toute façon avec les questions de recherche adapter ce qu'on veut faire ressortir du corpus. Pour cela, j'ai fait une transcription à ma manière adaptée. Alors l'orthographe du français standard adaptée à une expression orale avec variation transcrite. Parce que je pense quand même que ce que je vous montre ici, ça fait partie d'un plus grand projet et j'envisage aussi de traiter des questions de prosodie peut-être, ou on verra. Mais en tout cas, je l'ai mis dedans. Après, c'est numéroté par couplet pour retrouver et le majuscule sera réservé à l'accentuation intentionnelle. À part les acronymes, là, c'est toujours difficile. Ça dépend toujours si on, comment on les prononce. Ça sera encore à traiter. Et après, il y a les nombres écrits en toutes lettres. En plus de cela, plusieurs autres conventions. Le plus important sont les crochets pour les doutes et les incompréhensions. Parce que surtout, les chansons du début de la carrière, pour comprendre et entendre ce qu'ils disent, c'est pas toujours évident, surtout pour un Allemand. Donc, après, il y a Androtsopoulos et Scholz qui ont proposé une grille d'analyse comparative de paroles de rap en 2002. Et je me suis appuyé là-dessus. Ils ont surtout mis en avant la différence entre cadres socio-culturels, discours de rap et les patterns linguistiques. L'adaptation pour commencer l'analyse, pour moi, était celle-ci. Donc avec les catégories d'identification, construction discursive, après pour le discours du rap, les sujets, structures performatives, références culturelles. Après aussi la variation du langage, les structures rhétoriques et surtout les éléments d'autres langues. Il y a un texte, Cyril Trimaille, qui traite l'identification du rap et comment les rappeurs construisent un code neutre en utilisant les différentes variétés de langage, de langues, et mettent les unes face aux autres pour en construire leur langue et être authentique. Pour cela, surtout pour moi comme sociolinguiste, les patterns linguistiques sont quand même très importants. Mais au fur et à mesure de l'analyse, il y a des catégories supplémentaires qui apparaissent. Par exemple, rapper pour qui et pourquoi, alors le positionnement, les shout-outs, nommer des lieux, nommer des personnes, la description de l'environnement dans lequel on vit, les constructions discursives d'unité, par exemple nous, les constructions discursives de démarcation entre nous et eux, ou nous et vous, nous, moi et toi, construction discursive d'authenticité en soi, comme construction de durabilité, construction de simplicité, modestie, construction d'égalité, de fraternité. Bon, mais, comme je vous ai dit, je vais essayer de ne pas en dire trop, le temps avance. catégorie d'identification. On voit que d'abord, ils étaient des jeunes, après toujours des jeunes, mais là on voit aussi qu'ils font plus partie des jeunes en soi parce qu'ils parlent des jeunes, et à la fin, ils parlent de la jeunesse qu'ils représentent. Donc on peut dire que c'est une construction de porte-parole de la jeunesse, quand même. Bon, l'autre côté, ils sont marseillais, du ghetto, du plan Daou, comme on a entendu hier, de la cité nord, donc des quartiers nord de Marseille, du ghetto. Après, ils disent être des HLM de Marseille nord, du goulag nord et du ghetto. Pour finir par être en fond de quartier, bloc, plan d'art, ghetto, mais aussi, là, Dans El Barrio de l'album Enfant de la Lune, ils affirment « Je suis des HLM, pas de la hood ». The hood comes first, vous savez. Donc, et à la, mais dans les cités d'or, à un moment, ça change en flow à l'ancienne pour ma hood. Donc d'abord, il y a cette démarcation. Moi, je suis du quartier français. Et après, je suis de la hood. Donc, disons une mondialisation de l'identification. Bon, d'abord, une autre catégorie, c'est d'abord, il parle d'être des Noirs stigmatisés de différentes manières. Sur le deuxième album, il y a un conflit d'identité personnelle qui apparaît entre les origines comoriennes et être français. Et finalement, il y a une transformation de la stigmatisation en image positive. Vous savez, le mot que Soprano a créé, cosmopolitanie, joue là-dedans. Il apparaît pour la première fois sur les cités d'or. Et oui. Donc, mais aussi, il s'affirme d'être fils d'ouvrier et ou tirailleur, ce qui a quand même une connotation positive parce que les parents ont aidé à construire la France et ont contribué à la nation. Donc, il y a une transformation. Bon, là, c'est quelque chose d'autre que je trouve très intéressant. C'est d'abord, c'est la race des sang-chauds, les délinquants, ennemis d'État, terroristes. Qui s'affirmait encore aujourd'hui d'être terroriste dans le rap? Ça change quand même. C'était avant 2001, avant l'11 septembre. Donc, ils étaient quand même des radicalisés. Mais si on compare avec ce qui suit après, imaginaire. Parce que... ils disent « Psychiatre n'a jamais manié de crosse ». Donc, quand même, imaginaire. Et sur « En fond de la lune », on peut dire qu'ils se construisent comme dérègleurs et combattants contre les systèmes, mais sans armes physiques, de la victime en attaquant aussi. Et ils finissent sur les cités d'or, pas mouton ni pirate, libre et fier, porte-parole et leader, on peut dire des rebelles modérés. Bon, ça je saute. Ça, je trouve très intéressant aussi. D'abord, il y avait cette construction comme pluie d'un désert, comme ils ont aussi appelé la chanson, donc comme espoir dans un environnement sans espoir. On veut sortir du ghetto. Donc, et donner de l'espoir à son environnement, qui est vraiment... Si on regarde bien les textes, ils parlent que de misère, de galère, de deuil, de larmes. Oui. Après, ça change un peu. Il y a le côté vie de star qui vient dans leur perception. La construction de civil, donc, dans la même chanson. Où ils construisent aussi la continuité. On est toujours les mecs du bloc. On n'est pas des stars maintenant. On prend nos distances de cela. Donc, et finalement... une construction de humain croyant avec des faux. Surtout dans la chanson « On sait, mais on fait ». Ce qui rend, les rend très humains et construits comme approchables. Et oui. Donc là, je saute maintenant beaucoup parce que je veux quand même vous montrer la religion qui vient au fur et à mesure, c'est les croyants. Vous le voyez là, d'abord il y a peu, après un peu plus, et à la fin, vous voyez, il m'a même fallu une deuxième page pour montrer toutes les références à la culture, à la religion. Troisième page. Bon, les éléments de français populaire venant au changement du langage. Familier, construction argotique. J'ai pas... fait les recherches sur ce que chaque mot représentait vraiment, mais je sais que ça ne fait pas partie du français soutenu. Et vous voyez, on peut voir qu'il y a quand même une quantité plus ou moins stable. La qualité, j'ai eu l'impression qu'ils sont devenus moins vulgaires. Ça reste à prouver. Après, il y a d'autres langues qui changent. Et les mots d'autres langues, occitan, provençal, langage du sud, j'ai l'impression que ça diminue. Après, aussi d'autres cultures diverses, ça diminue, donc ça une baisse du langage teinté du Sud. C'est en rouge parce que je ne suis pas sûr si on peut l'appeler comme ça. Autre langue européenne, surtout sur le deuxième album, bizarre. Anglais, sur le troisième album, plus. Arabe aussi, vous avez vu avec la religion qui s'affirme. Là, ça vient de plus en plus aussi. Espagnol, de même. Donc, on peut dire que l'arabe et l'espagnol soutiennent la construction de méditerranéen et de croyants comoriens. Une des langues des Comores, c'est l'arabe quand même. Et en échange du langage teinté de Marseille. Ce qui est très intéressant, mais surtout l'espagnol, parce que l'espagnol comme langue nationale, avec un statut, je dirais, au niveau mondial, au-dessus du français. Il y a plus de gens qui parlent espagnol que français. Donc, pour reprendre Trimaille, utiliser l'espagnol face au français, ça fait quand même une révolte contre l'oppression, d'une certaine manière, mais aussi une affirmation d'être homme du monde, avec l'anglais en même temps. Oui. Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.